Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu, texte de la liturgie catholique pour le 14e dimanche. En ce temps-là, prenant la parole, Jésus dit :
Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu caches ces choses à des sages et des intelligents, et tu révèles ces choses à des tout petits. Oui, Père, tel est le choix de ton amour. Tout m'a été donné par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils a dessein de le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes surchargés, et moi je vous donnerai le repos. Portez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos vies. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Nous avons ici une des rares prières de Jésus que l'Évangile nous est conservée. Elle est donc très précieuse pour nous révéler la personnalité profonde de Jésus, sa vie intérieure, spirituelle. Mais que signifie ce joug et ce fardeau? Comment comprendre le repos dont parle Jésus? Quel sens donner à l'expression « doux et humble de cœur » qui illustre bien souvent des images pieuses? Celui qui a chassé les vendeurs du temple est-il l'homme doucereux que ces images décrivent?
Eh bien, regardons d'abord où se situe notre texte dans le récit de Matthieu. Après avoir expliqué l'enseignement de Jésus, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, chapitres 5 et 7, après avoir montré comment cet enseignement se traduit dans des guérisons physiques et morales, ce sont les chapitres 8 et 9, Matthieu a tracé le portrait du disciple, ce disciple qui va être l'envoyé de Jésus pour collaborer à son œuvre, et c'est le chapitre 10. Et nous voilà au chapitre 11, qui va répondre à la question de Jean le Baptiste, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et on dirait que ce chapitre se pose la question, qu'est-ce qui empêche Jean de voir en Jésus l'envoyé de Dieu? Et ce qui fait douter Jean, ne fait-il pas douter d'autres que lui? Comme par exemple les gens des villes de Chorazin et de Bethsaïda. Ou comme les pharisiens, ces pharisiens qui vont jusqu'à dire que Jésus a un pacte avec le diable et que c'est par la puissance du diable qu'il fait des guérisons. Ou bien comme ces autres pharisiens, qui demandent un signe éclatant pour croire en Jésus, comme peut-être même la famille de Jésus, qui pense qu'il a perdu la tête et qui viennent pour essayer de le récupérer. Voilà les chapitres 11 et 12. Qui sont ceux qui peuvent reconnaître Jésus et pourquoi cela leur est-il possible de le reconnaître? Voilà sans doute ce à quoi notre texte va répondre.
Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu caches ces choses à des sages et des intelligents, et tu révèles ces choses à des tout-petits.
Mais quelles sont ces choses qui sont cachées ou bien révélées? Probablement, c'est l'identité profonde de Jésus, le mystère de Jésus, comme le contexte semble nous l'indiquer. Et quels sont ces sages et ces savants? Eh bien, ce pourrait être d'abord Jean le Baptiste lui-même. Voyons ce que Jésus dit de lui.
Parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne n'en s'est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste.
Mais Jésus ajoute,
cependant, le plus petit dans le règne des cieux est plus grand que lui.
Alors pourquoi Jean est-il grand et petit en même temps? Jean attendait un Messie qui viendrait purifier le monde, qui viendrait purifier d'abord le peuple de Dieu. Ce combat qui va chasser les Romains dans son rêve, dans sa pensée, dans son espérance, ces Romains qui sont des païens, eh bien ce sera aussi le temps choisi par Dieu pour punir tous les Juifs infidèles. Et au lieu de ces préparatifs d'un combat purificateur, voilà que Jean voit Jésus manger à la table même des pécheurs, ce qui était terrible, et prêcher le pardon et la miséricorde de Dieu.
Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et l'on dit, « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. »
Oui, devant ces doutes de Jean le Baptiste sur sa mission, Jésus déclare,
« Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. »
Quelle image de Dieu se fait Jean? N'est-ce pas celle d'un Dieu tout-puissant qui va manifester sa force et venger son honneur en exterminant les mauvais? Alors que Jésus se présente non pour juger et condamner, mais pour sauver. Et pour lui, le salut ne viendra pas par la punition, mais par le pardon. Seul le pardon apporte la guérison. La punition peut au contraire endurcir le cœur. Mais il n'y a pas que les doutes de Jean, il y a aussi l'incompréhension des villes juives. Jésus manifeste sa déception envers ses compatriotes, et il va comparer ces villes juives aux villes des païens de Tyr et de Sidon.
Si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles auraient fait conversion.
Jésus pense sans doute à la prétention de certains juifs de se croire fidèles du seul fait qu'ils appartiennent au peuple de Dieu. On sait que Jésus a repris souvent le proverbe « Aucun prophète ne trouve accueil en sa patrie ». Sa prédication dans la synagogue de Nazareth s'est d'ailleurs heurtée à cette attitude. Les gens de Nazareth se donnaient des droits au miracle de Jésus. Et Jésus va leur montrer que Dieu a souvent choisi de donner priorité à des païens, comme il l'a donné priorité à la veuve de Sarepta et au lépreux syrien Naaman.
Mais alors, pourquoi ce seront les petits qui vont découvrir en Jésus l'envoyé de Dieu?
Qui sont ces grands d'abord? Du moins ceux qui se croient tels. Ce sont ceux qui se pensent grands parce qu'ils connaissent parfaitement la Torah, la règle de Dieu, parce qu'ils l'appliquent à la lettre. Ils se pensent des connaisseurs de la Torah, et parce qu'ils sont des connaisseurs, ils ont des droits à l'amour de Dieu. Rappelons-nous, le fils aîné de la parabole du père et des deux fils. Parce qu'il a toujours écouté les ordres de son père, l'aîné considère qu'il a droit à l'amour paternel. Et il est indigné de voir que son père aime sans condition son jeune frère qui a renié la famille. Eh bien, ce fils aîné est le modèle de ces grands, de ceux qui ne peuvent pas comprendre l'amour gratuit du Père divin. Ils ne peuvent pas comprendre la gratuité de l'amour, et cette incompréhension va les faire tomber dans la révolte, et même parfois dans la haine. Ils se refusent alors à pardonner, et parce qu'ils se refusent à pardonner, ils se ferment au pardon d'amour du Père. Les petits symbolisent au contraire tous ceux qui sont sans revendication, et parce qu'ils n'ont pas de revendication, ils sont tout accueil. Les petits enfants dans la Palestine d'alors sont en effet des êtres sans droit. On est loin alors des lois de protection de la jeunesse de notre pays. Comme ces enfants, ces petits, ne connaissent pas encore vraiment la Torah, alors ils ne peuvent pas l'appliquer, et donc ils ne peuvent revendiquer des droits à cause de leur fidélité. Dans la catégorie des petits, Jésus nomme aussi les gens marginaux, ceux que la vie quotidienne empêche de venir à la synagogue, là où l'on apprend la Torah. Ces gens sont souvent méprisés. Un rabbi, le rabbi Hillel, disait d'eux, ils n'ont pas de conscience et sont moins que des êtres humains. Les grands prêtres diront aux gardes qu'ils avaient envoyé arrêter Jésus sans succès.
Auriez-vous donc été abusés, vous aussi? Parmi les notables ou les pharisiens, en est-il un seul qui ait cru en lui? Il y a tout juste cette racaille qui ne connaît pas la Torah, des gens maudits.
Oui, ces marginaux ne peuvent rien revendiquer devant Dieu. Ils ne peuvent qu'accueillir son amour. Ils l'accueillir malgré tout leur manquement à la Torah. Dès lors, leur cœur est bien plus ajusté à la bonté miséricordieuse du Père que le cœur de ceux qui se pensent grands. L'image de Dieu qu'ils se font, celle d'un Père tout aimant, est beaucoup plus vraie que celle que se font les grands prêtres et les pharisiens, celle d'un Dieu tout-puissant. Alors ils sont plus proches de Jésus et du Dieu que Jésus veut leur révéler.
Tout m'a été donné par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils a dessein de le révéler.
Ce Dieu que Jésus révèle est d'abord et avant tout Père. Cet emploi du mot Père semble bien une attitude propre à Jésus. Peut-être trouvons-nous derrière ce titre le petit mot araméen « Abba », que l'Évangile nous fait entendre sur les lèvres du Christ à Gethsémani. C'était le nom donné par les petits-enfants à leur père, l'équivalent de notre papa. Cette connaissance de Dieu, Jésus affirme qu'elle est donnée par le Père, elle est un don, et que ce don ne peut être vraiment reçu que par celui qui est, qui agit en fils, en fille du Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils.
Pourquoi Jésus rappelle-t-il ce qui semble un proverbe « Le Fils connaît son Père » ?
Oui, un proverbe qui est sans doute vrai. Les liens du sang peuvent rendre proches père et fils. Il y a des gènes communs qui deviennent la source de réactions, de réflexes plus ou moins semblables. Mais c'est peut-être insuffisant, les liens du sang. Nous avons l'expérience de fils qui n'ont jamais connu leur père en profondeur. Jésus fait sans doute référence ici à la relation toute spéciale qu'il y a entre le Père et son Fils en Israël. À l'époque, en effet, c'est le Père qui apprend dès l'enfance la Torah à son Fils. Et la Torah, on le sait, c'est toute la sagesse traditionnelle que l'on se transmet de génération en génération. Le Père lui a déjà intégré cette sagesse par son expérience de vie. Il s'en est nourri dans la prière. Il s'en est enrichi au long des jours. Dans cette transmission, dans cette tradition, c'est donc toute son intimité spirituelle qui se livre. C'est le plus intérieur de lui-même. C'est finalement sa relation avec son Dieu, sa relation avec celui qui est son origine, qui est le tout début de son existence, le pourquoi de son être. Bouddha disait, il est meilleur de vivre un seul jour dans la pensée de son origine que de vivre 100 années privé de cette pensée. Eh bien, Jésus, sans doute, s'appuie sur cette expérience humaine de filiation pour traduire la filiation divine qu'il vit en perfection avec Dieu. André Chouraki s'exprime ainsi, « Tel un miroir parfait, Jésus reflète et manifeste à travers toute sa personne la présence et l'action créatrice de Dieu. » Il faudrait peut-être mieux dire « la présence et l'action amoureuse de Dieu ». Ainsi Jésus, parce qu'il est le Fils unique, nous introduit dans l'intimité du Père, dans le cœur même de la vie divine. Le Fils nous communique l'esprit même du Père, sa pensée, sa volonté. Et pour nous, c'est dans la relation que nous aurons avec Jésus, le Fils bien-aimé, que nous pourrons entrer, avec discrétion et respect, dans cette famille divine unique. Le disciple de Jésus doit devenir un vrai fils du Père à l'imitation de son Maître par sa communion avec lui. C'est ce que Jésus a confié à Nicodème.
Tu es maître en Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. Si vous ne croyez pas lorsque je dis les choses de la terre, comment croirez-vous si je vous dis les choses du ciel? Et cependant, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme.
Ces expressions, être monté au ciel, être descendu du ciel, ce sont sans doute l'illustration imagée de cette intimité que Jésus vit avec le Père dans une prière continue. Mais cette relation intime, secrète, que Jésus vit avec Dieu, il se sent responsable de la partager avec ceux qui vont devenir ses frères et ses sœurs. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils a dessein de le révéler. Mais n'oublions pas cette phrase de Jésus, « Mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. » C'est en se mettant à l'école de ce rabbi, Fils unique du Père, que les disciples connaîtront vraiment Dieu comme leur propre Père. Se laisser instruire, c'est d'ailleurs très proche de se laisser aimer. On ne grandit dans la vie qu'en recevant des autres, et en recevant d'abord de l'autre qui est Dieu. On ne peut donner aux autres qu'en retour, qu'en partageant ce qu'on a d'abord reçu. On ne peut aimer en vérité qu'en restant petit, et on ne reste petit dans l'amour qu'en reconnaissant qu'on est loin d'aimer en vérité. Redisons cette belle définition d'un chrétien, telle que l'écrit Guy Coq.
Se dire chrétien, c'est reconnaître qu'on fait de modestes progrès dans la découverte qu'on ne vit pas selon l'Évangile. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Prenez sur vous mon joug.
Le joug, faut-il le rappeler, pour nous qui sommes maintenant des gens de la ville et d'un siècle où il n'y a plus beaucoup de joug. Le joug est cette barre de bois qui servait d'attelage pour les bœufs qui traînaient la charrue. Cela donne l'impression de quelque chose de pénible à porter. Prier et vivre en conformité avec la Torah, la règle de vie donnée par Dieu, se dit en hébreu « assumer le joug du royaume du ciel ». La Torah de Dieu, à l'époque de Jésus, apparaissait peut-être souvent comme ardue et difficile à réaliser. Cela peut nous sembler contradictoire, car en effet, dans la tradition de la première alliance, la Torah est bonne à vivre. Le Siracide nous dit qu'elle procure joie et bonheur.
« Approchez-vous de moi, ignorant. Mettez-vous à l'école. Achetez l'instruction sans argent. Mettez votre cou sous le joug. Que vos âmes reçoivent l'instruction. Elle est tout près à votre portée. Voyez comme j'ai eu peu de mal pour me procurer beaucoup de repos. »
Oui, Isaïe, le prophète Isaïe, parle de la sagesse comme étant justement un pain qui nourrit, une eau qui désaltère, donc ce qui apporte le repos.
Vous tous qui êtes altérés, venez vers l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain, votre salaire pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous délecterez de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra.
Voilà, l'écoute et l'acquisition de la sagesse est donc un pain qui nourrit, quelque chose qui fait vivre. Malheureusement, avec le nombre des années et les habitudes humaines, un rigoureux légalisme s'était solidifié en un code de 613 règlements. Et c'est souvent le petit peuple qui en subissait les conséquences. En effet, des pharisiens établissaient leur pouvoir sur les gens simples en les accablant sous ces règlements et en les accablant avec la peur de la punition divine. Il fallait apprendre ce code par cœur en se balançant, et l'un de ces balancements de droite à gauche s'appelait le balancement du joug. Il imitait effectivement la démarche du bœuf supportant le joug. Mais des règlements plus ou moins compris, exécutés par peur, ne rendent pas libres. Et Jésus parle durement de certains pharisiens.
Ils lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des gens, alors qu'eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt.
Alors que le sabbat doit être vécu comme un jour de libération, un jour où l'on va se libérer du travail astreignant, eh bien les scribes avaient multiplié défenses, mises en garde, raffinant à l'infini sur le permis, sur le défendu. On pouvait par exemple éteindre une lampe par mesure de prudence ou par égard pour un malade, mais pas pour économiser l'huile, car en laissant s'éteindre la mèche, on produit du charbon et donc on se livre ainsi à un travail. Le sabbat avait dans une large mesure cessé d'être un jour d'allégresse et l'accomplissement de la loi, de la Torah, du plaisir qu'il aurait dû être, était devenu un poids, un joug écrasant. Jésus, homme libre, en communion d'amour avec son Père, s'opposera à cette forme de légalisme. Il va donner une interprétation libératrice de la Torah. Lorsque les pharisiens critiquent ses disciples parce qu'ils ont mangé des épis de blé dans un champ un jour de sabbat, Jésus va leur dire:
« Si vous aviez compris ce que signifie, c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. Vous n'auriez pas condamné ces hommes qui sont sans faute, car il est maître du sabbat, le Fils de l'homme. »
Oui, pour Jésus, tout être humain est maître du sabbat, et il doit agir selon sa conscience. Jésus s'affirme libre et veut que chaque être humain s'affirme libre. Il le fera auprès des scribes et des pharisiens, comme auprès de tous les représentants de la Torah.
« Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre. » Et les regardant tous à la ronde, il dit à l'homme: « Étends la main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Eux furent remplis de fureur.
Oui, ils sont remplis de fureur parce que Jésus a guéri le jour du sabbat. Jésus, lui, dans sa liberté, n'a qu'un seul dessein, faire le bien, sauver la vie. Et il le fait en communion avec Dieu son Père, le miséricordieux. En agissant ainsi, Jésus déclare se situer au cœur même de la Torah.
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux préceptes dépendent toute la Torah et les prophètes. »
Oui, Jésus donne ainsi du souffle à la Torah de Dieu. Il la resitue dans son essentiel. Il dira qu'il n'est pas venu abroger, détruire la Torah, mais au contraire l'accomplir, la mener à sa plénitude. Pour Jésus, la Torah est bonne, mais elle ne doit pas être pervertie par les traditions des légalistes. Et Jésus condamnera ceux qui annulent, comme il le dit, la parole de Dieu par leurs traditions.
Sommes-nous les disciples de Jésus aujourd'hui, à la fois dans cette liberté, dans cette recherche de l'essentiel, aimer en vérité?
Oui, la conscience est-elle pour nous le critère ultime de décision dans la liberté? Il n'est peut-être pas inutile d'écouter ce que Mgr Coligny, qui fut archevêque de Toulouse en France, écrivait il n'y a pas si longtemps.
Si votre conscience vous dit que la loi ne s'applique pas dans votre cas personnel, et si, après avoir cherché, pris conseil, vous ne faites qu'un avec cette conviction, Non seulement vous pouvez, mais vous avez le devoir de suivre votre conscience. Parce que la conscience éclairée, même si elle se trompe en fait, si elle est de bonne foi, est le dernier critère qui donne de la moralité à un acte.
Voilà, la conscience éclairée, si elle est de bonne foi, est le dernier critère qui donne de la moralité à un acte, même si en fait elle peut se tromper. Cette priorité donnée au bien des personnes, elle est tout autant valable pour les institutions. Pour l'Église catholique, on peut penser à cette question du presbytérat. On connaît la situation dramatique de la plupart des églises d'Occident quant à la pénurie de prêtres. La possibilité d'ordonner des hommes mariés avait été envisagée dans un synode en 1971, et le vote qui avait refusé cette hypothèse avait seulement eu 20 voix de majorité. Est-ce qu'il n'est pas légitime de reposer la question? En ayant, bien sûr, comme première préoccupation ce qui sera le bien de l'Église, on sait que beaucoup de communautés chrétiennes sont privées de l'Eucharistie parce qu'il n'y a pas assez de prêtres. Considérer cette question comme tabou serait sans doute une grave erreur. Citons Jean Rigal, un grand théologien français.
Refuser plus longtemps d'envisager l'ordination éventuelle d'hommes mariés reviendrait à faire passer l'exigence du célibat sacerdotal avant les besoins de la communauté chrétienne. S'il en était ainsi, par un renversement illogique des termes, on accorderait la priorité à une loi de l'Église sur les nécessités de la mission.
Oui, c'est donc en dernier lieu l'amour qui doit dicter notre conduite. Celui qui aime son prochain a pleinement accompli la Torah, dira l'apôtre Paul.
Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos vies.
Oui, on a vu précédemment le lien entre la sagesse et le repos. Elle est un pain nourrissant, elle est une eau désaltérante. Le Siracide fait aussi le lien entre la sagesse et la douceur.
Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits, car mon souvenir l'emporte en douceur sur le miel, et ma possession est plus douce que miel, que le rayon de miel.
Et l'épouse du Cantique des Cantiques disait que la bouche de son bien-aimé n'est que douceur. Alors, la douceur dont on parle ici, c'est d'abord et avant tout la douceur de la pensée, de la sagesse de Dieu, de la douceur de ce programme de vie que nous donne le Christ. Celui qui choisit de suivre le Fils bien-aimé du Père, celui qui se met à son école de sagesse, celui-là connaîtra la douceur de Dieu, une douceur faite de tendresse et de miséricorde, une douceur porteuse d'une vie d'éternité.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou 1 an au feuillet ou aux cassettes.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.